Dimitri Pavlenko.
Il est 8h43, elle n'occupe plus le devant de la scène médiatique, mais elle n'est pas très loin. L'actualité de ce matin se charge de nous le rappeler. Avec l'ouverture ce lundi de l'attentat de Nice en 2016, elle, c'est la menace terroriste. Les oreilles attentives auront peut-être noté cette inflexion ces dernières heures, coup sur coup ce week-end, de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et du procureur national antiterroriste Jean-François Ricard. Tous les deux nous parlent de signaux inquiétants, qu'il fallait à nouveau redouter la possibilité d'une action pilotée depuis l'étranger contre la France. Vous savez, on parle dans le monde de l'entreprise du wording, donc c'est les mots qu'on emploie, les nuages de mots, si je puis dire, les mots-clés. Vous voyez, ça change. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça n'est pas anodin. La menace extérieure, la menace terroriste est de retour. En plus, évidemment, de la menace endogène, de ce fameux djihadisme d'atmosphère dont on a souvent parlé sur Europe 1. Et bien justement, on aborde le sujet ce matin avec nos deux éditorialistes du jour. Bonjour Carole Barjon.
Bonjour.
Grand reporter à l'Obs, bienvenue sur Europe 1. Charlotte
Merci.
Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte.
Bonjour Dimitri.
Voilà, Emmanuel, Philippe sont restés également avec nous. On ne va pas passer trop vite d'abord sur le procès de Nice, parce qu'il faut bien mesurer, se souvenir de ce qui s'est passé. Malheureusement, on sent qu'une espèce d'indifférence s'installe à mesure que les attentats s'empilent les uns derrière les autres, le temps faisant son œuvre. On l'avait vu pendant l'attentat du 13 novembre. Oui, bon, ça y est, c'est le procès. L'attentat de Nice, c'est une scène de crime. Le chiffre m'a beaucoup impressionné ce matin en le relisant. C'est une scène de crime de 1850 mètres, Charlotte Dornelas.
Oui, et puis c'est 86 morts, ça on le sait, on avait le chiffre, mais c'est aussi 400 blessés dont on ne sait absolument rien quelques années plus tard, parce que c'est moins impressionnant, évidemment, que le nombre de morts, mais c'est des vies qui peuvent être bien fauchées selon les blessures. Et on a évidemment quelque chose d'assez... D'ailleurs, c'était un peu... le même sujet au moment du Bataclan, au tout début, quand l'accusé principal refusait de parler, on se souvient. Bon, là, celui qui était au volant du camion est mort et a été abattu le jour de l'attentat. Donc on a 8 personnes. Moi, ce que je crains, c'est qu'on attend toujours énormément de ces procès sur le terrain. Alors, les victimes attendent énormément pour savoir ce qui s'est passé. Malheureusement, ce qui s'est passé se passe essentiellement sur le terrain idéologique, et c'est toujours la partie qui a du mal à s'imposer dans ce genre de procès. Et on l'a vu au Bataclan, c'était compliqué. On avait notamment l'avocate de Salah Abdeslam qui passait son temps à nous dire, mais je comprends pas, enfin moi il y a une phrase que je retiendrai toute ma vie, je pense, elle dit, j'ai parfois l'impression que certains imaginent qu'on a plus qu'un accusé dans le box, certains le prennent pour un ennemi. Ben, je te confirme, en fait. Oui, évidemment que c'est un ennemi, évidemment que c'est une guerre, qu'il fait la guerre à la France et qu'il doit être considéré comme tel. Donc, c'est vrai que c'est, moi, c'est tout ça que je crains toujours un peu au début de ce procès, qui est par ailleurs évidemment est nécessaire. Et là, en plus, on a 8 personnes qui sont au tribunal, qui sont accusées. Et c'est des accusations plus ou moins liées directement à l'attentat. Du trafic d'armes, on a des gens qui ont conduit le camion, mais dans quelle mesure est-ce que ils étaient au courant ou pas, c'est toujours très compliqué de le déceler.
Et puis là, on a quand même un terroriste, alors abattu le soir même par les forces de l'ordre. Il y a vraiment un profil très particulier. Son ex-femme a témoigné contre lui en expliquant quel homme il était, très pervers, très sadique. Les gens qui sont dans le box des accusés se disent, mais est-ce qu'il n'a pas laissé mon nom écrit sur un bout de papier dans son appartement pour me nuire, en fait, pour que je l'accompagne finalement dans sa chute, alors que finalement, certes, je lui ai vendu une arme, mais jamais j'ai entendu parler d'un procès, d'un attentat terroriste. Il en a pris d'autres en photo devant le camion, etc., etc. Carole Barjon, ce procès... Charlotte insiste sur la potentielle déception, finalement, pour tous ceux qui attendent justice contre le terrorisme.
Et sur l'idéologie qui préside, au fond... qui est la raison d'agir souvent de ces terroristes. Le problème, je suis pas en désaccord avec ce que vient de dire Charlotte, mais ça, c'est du ressort du politique, évidemment. Et là, on est dans un procès, donc c'est du ressort de la justice, dont la mission est de rechercher les coupables, d'établir des faits, et voilà. Donc on est le procès de l'idéologie, elle ne peut pas avoir lieu là. Ce qu'on sait, c'est que malheureusement, et effectivement, il y a quand même eu 86 morts, il y a presque 900 personnes qui sont portées partie civile, donc c'est absolument énorme. Toutes ces personnes attendent énormément de ce procès, mais les avocats, et pas seulement eux, disent beaucoup que malheureusement, ça ça risque d'être le procès de la frustration. Pourquoi ? Parce que le principal, enfin l'auteur de l'attentat est mort, que les autres sont...
On avait dit pour le V13, c'est le procès des lampistes, là plus que jamais.
Qu'il n'y a pas de co-auteur véritablement, qu'il y a, il y a eu des complices, mais qui ne sont pas accusés d'être co-auteurs de l'attentat, et qui sont éventuellement poursuivis pour des faits d'association, de malfaiteurs, etc. Donc les victimes, les proches des victimes plutôt, risquent d'être extrêmement déçus. Et au fond, la fonction de ce procès sera peut-être d'être, de permettre de libérer la parole et que ces gens puissent parler. On a un peu ce sentiment-là ce matin.
C'est un peu ce que disait Maître Gérard Chemla, qui était notre invité à 7h10. Son interview est à retrouver d'ailleurs sur europe1.fr. Emmanuel Ducrot, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, l'intérêt de ce procès, là, c'est qu'il ne dira pas une vérité factuelle. Il dira un point mémoriel. C'est comme poser une stèle, un procès comme celui-là. Et ce qui émerge, c'est un bas-relief. C'est-à-dire des morceaux de vérité qui émergent du vide, du creux, de l'absence de l'absence d'auteur, de l'absence de parole. Il va falloir faire avec ça. Et je pense que pour les familles des victimes, c'est important de se retrouver probablement ensemble, de partager l'émotion, le drame, etc. Mais je crois qu'effectivement, ça ne refermera pas de plaie.
Voilà, et c'est dans ce contexte, dont je reviens à mon lancement, c'est dans ce contexte que Gérald Darmanin, mais il n'est pas seul, le procureur national antiterroriste, tous deux, en l'espace de 48 heures, nous disent voilà, que revient la menace terroriste extérieure. Alors en ce qui concerne Gérald Darmanin, si on élargit un petit peu la photo, on voit que c'est aussi dans le contexte aussi de ce fiasco autour de l'imam Iqiyoussen, où il est en situation de fragilité politique. Le pôle régalien du gouvernement qu'il incarne est pris en situation de défaite. Comment vous interprétez ça, Charlotte Dornelas? Il a des informations donc il ne peut partager, mais il a envie de...
Ça, j'en sais rien.
Il a envie qu'on fasse attention.
J'en sais rien, parce qu'il ne m'a pas appelé pour me donner les informations qu'il ne nous a pas partagées à tous. Non, mais j'en sais rien. Moi, quand j'entends la menace terroriste revient, j'ai envie de leur dire, je sais pas, j'ai l'impression que c'est tous les trois jours, en fait, un coup de couteau par-ci, un coup de couteau par-là. Je rappelle quand même que l'État islamique a demandé à ces soldats, c'est-à-dire à n'importe qui veut être un soldat de l'État islamique pendant 2 heures, d'attaquer avec sa voiture, son couteau, partout où ils sont. Et on prend toujours ça de manière individuelle, en se disant, ah, une attaque au couteau et tel profil, et on décortique le profil comme s'il n'appartenait pas à plus large que lui. Donc déjà, cette menace, alors évidemment, c'est pas aussi spectaculaire, on va dire, que le Bataclan, que les terrasses, ou que...
Pour résumer, vous dites, il faut pas aborder ce phénomène comme un juge d'instruction qui va s'arrêter un événement, il faut avoir une lecture un peu plus large.
Et la question, alors moi quand j'ai regardé, j'ai épluché les profils qui sont au tribunal justement pour Nice, alors c'est que des profils de grande délinquance, de trafic d'armes en réseau, c'est que des réseaux en l'occurrence tunisiens et albanais, et donc ils s'échangent, et il y en a un pour se défendre qui dit oui, je lui ai donné des armes et je savais pas que c'était pour faire un attentat, parce que moi d'habitude je lui vends de la coke. Excusez-nous, on s'est trompé, c'était... Donc on comprend que c'est des réseaux de gros trafic et de grand banditisme, et on a à la fois sur la question, vous citiez vous-même la question de l'imam, on a un Gérald Darmanin qui est empêtré, il n'y a pas la réforme de fond qui permet de rendre les expulsions beaucoup plus faciles pour les profils qui sont visés, et de l'autre on a, et je fais peut-être un lien avec l'interview que vous avez fait ce matin, mais une réforme de la police qui précisément risque d'affaiblir les enquêtes extrêmement ciblées et spécialisées sur le grand banditisme au profit en effet de la petite et moyenne délinquance qui doit être gérée. Mais je sais pas, tout ça mis ensemble, on a parfois l'impression que les sujets sont traités, enfin même tout le temps, sont traités de manière séparée. Or là, franchement, ça fout le vertige en fait.
Et ce cloisonnement qui était précisément l'objet...
Soi-disant, c'est pour lutter contre. J'ai peur que ce soit pire même.
Philibald, vous voulez...
Oui, je veux dire une chose, c'est que ce que dit Charlotte est important, ces coups de couteau dont on entend parler un peu dans toute l'Europe, ils ont un sens politique.
Et on est vite passé
sur l'attentat contre Rushdie, qui est quand même énormissime, qui est un événement mondial. Et on a une difficulté. Rappelons-nous, après les attentats de Nice, il y a eu un débat. Faut-il en parler et comment ? en quelque sorte, les photos, les commentaires, les noms du participant, etc. On s'est dit non, peut-être pas. On a un rapport terrible avec le terrorisme et avec, avec sa cause politique qu'on ne veut pas nommer.
Mais qualifier les choses, Philippe, quel est ce rapport que nous avons listes,
par exemple, le président de la République.
On a parlé du camion fou, hein, j'ai encore entendu le camion fou.
Le camion fou, il n'était pas fou, le camion, il savait très bien ce qu'il faisait. Le président de la République récemment, quand il a, après l'attentat de Rushdie, et la ministre de la Culture n'ont pas dit le mot islamiste après l'attentat de Rushdie. Je dis,
ils comme ont
pas
François prononcé. Hollande en 2015.
Ils ont la politique qu'il y a derrière ces crimes, commis par des types sans doute très excités, mais on nous dit des déséquilibrés, on appuie sur le fait qu'ils sont, entre guillemets, déséquilibrés, mais ils sont politiques. Et donc, on ne veut pas parler de ça. C'est un vrai problème que l'on a. Après les attentats à Nice, ça a été un débat incroyable de savoir s'il fallait en parler ou non, de quelle façon. Vous vous rendez compte,
mais précisément, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça... C'est la mission des hommes politiques, des responsables politiques, et précisément, notamment ceux qui nous gouvernent. Oui. Parce que la justice, elle doit établir des faits. Donc, ils ont des rôles absolument différents. Mm-hmm. Et un juge ne peut pas... Enfin, qualifié, il peut dire que par exemple on est radicalisé, parce que ça c'est dans la loi, mais qualifier une idéologie, c'est beaucoup plus compliqué pour la justice, c'est le rôle des politiques.
Mais malgré tout, j'insiste, ce retour de la menace extérieure, je trouve que ça n'est pas anodin quand même que, outre le ministre de l'Intérieur, je le répète, le procureur national antiterroriste nous dit, regardons à nouveau ce qui se passe du côté de la Syrie, du côté peut-être aussi du Liban, peut-être aussi de la Libye, où ces mouvements terroristes que l'on pensait éradiqués, eh bien finalement
prospèrent
à nouveau, comme des mauvaises herbes. Voilà.
Enfin, on espère que le renseignement extérieur est toujours, comment dire, très vigilant. Effectivement, ce que dit Gérald Darmanin, il a l'air de nous prévenir de nouveaux dangers. Oui. Il ne précise d'ailleurs pas exactement lesquels, mais...
Parce que moi, il y a quand même...
On n'a pas le sentiment qu'ils aient jamais disparu.
Une chose me frappe, c'est que Nice surgit 8 mois, pratiquement jour pour jour, après les attentats du 13 novembre. Et on se dit, maintenant, on regarde ce qui s'est passé, c'est étonnant quand même que la promenade des Anglais n'ait pas été interdite, finalement, n'ait pas été interdite à la circulation, que ces camions aient pu rentrer. Ça fait partie des choses qui vont être discutées autour du procès, pas précisément dans le procès. Mais quelles leçons a-t-on tiré, finalement, des attentats précédents? Est-ce que les failles dans le renseignement, dans le suivi de ces profils radicalisés qui sont partis en Syrie, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui on l'a intégré? Est-ce qu'on le suit bien? Ça fait partie des questions qui sont posées.
Je sais pas, en fait, que, quand il dit il y a un retour du terrorisme, est-ce que c'est par rapport à ces dernières années? Alors évidemment, le Covid, il y a eu un truc qui a été quand même assez pratique sur le retour des djihadistes et la fermeture des frontières. Je veux pas... juste avant le Bataclan, on nous expliquait que c'était une idée saugrenue, qu'évidemment, ils n'allaient pas arriver par le flux des gens. Il y a encore des personnes qui sont interpellées parfois dans le flux de ces réfugiés qui ont des profils totalement terroristes. Donc il y a évidemment cette question-là qui se pose avant, qui me paraît être la question de base par rapport à une menace extérieure, avant d'aller mettre des plots partout et de rendre toutes nos vies impossibles. Parce que la question que vous posez sur la question du camion, elle est évidemment légitime. Et en même temps, on se dit, mais jusqu'où on va dans nos vies quotidiennes? C'est très compliqué aussi de faire cette dose-là. Et je pense qu'il y a quand même des mesures qui me semblent essentielles et efficaces avant celle-ci.
Merci Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, Carole Barjon de l'Obs. Merci Carole, à la semaine prochaine. Et Philippe Vandel.